Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde où la peur, l'anxiété et le manque de sens est partout. Il y a quelques années, après une profonde remise en question, j'ai pris la décision la plus importante de ma vie, celle de m'écouter. De ne plus me laisser guider par mes doutes, mes craintes, mais simplement d'écouter mon instinct, d'agir et de faire. Et progressivement, ça a littéralement tout changé. Je suis Teddy Brodley, je suis entrepreneur et coach, et j'ai décidé pour ce deuxième podcast de partir à la rencontre de ceux et de celles qui entreprennent leur vie pour vous aider à les comprendre et à éveiller chez vous l'envie de devenir qui vous êtes vraiment. Bonjour, bienvenue dans Sage Podcast. Aujourd'hui, je reçois Alice et je vous laisse découvrir sans plus attendre notre échange. Bonjour Alice, comment ça va? Je suis très contente de t'avoir déjà.
Salut Teddy, ben moi aussi, je suis très contente d'être avec toi.
Bon, alors on fait ce podcast ensemble parce que je t'apprécie beaucoup, parce que t'es complètement dingue, mais ça les gens vont le découvrir, et parce que je trouve que tu dégages quelque chose de très serein et de très positif par rapport à l'entrepreneuriat. Voilà. Et comme le but de ce podcast, c'est un petit peu d'échanger avec des personnes qui, malgré le fait qu'elles ne soient pas Steve Jobs et compagnie, ont quand même des actions positives à leur niveau, qui amènent du bien, qui ont du sens, je trouve. Pour les gens qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter.
Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, bien sûr, je peux me présenter. Je peux dire deux choses. C'est que moi, je me suis fait deux promesses il y a maintenant un peu plus de 4 ans. C'est de ne plus faire mes choix pro que par le plaisir. Et puis la deuxième promesse que je me suis fait à moi-même, donc c'est les plus importantes à tenir, c'est que j'allais plus choisir entre vanille et chocolat, j'allais tout prendre. Je rajoute pistache, je sais pas, rhum raisin aussi, tu vois, saucisson. Enfin bref, en gros, j'ai créé deux boîtes et maintenant une asso et puis maintenant je fais un film. Voilà, et je demande à mon entourage d'arrêter de me donner des bonnes idées ou de me lancer des idées à la con parce que j'aime bien les réaliser.
Voilà, donc ça c'est fait. Ok, et du coup, tu...
ça ne correspondait pas tout à fait à ça. Fallait que je te fasse un CV ?
Non, absolument pas. Alors là, le CV, on s'en fout. On s'en fout. Bon, ben voilà, donc vous avez compris, vous ne savez toujours pas exactement qui est cette personne et à qui vous parlez, mais vous savez juste qu'elle est complètement barrée.
Bon, je peux te le refaire si tu veux un truc
non,
concret.
Non, tu ne me la refais pas. Qui es-tu, Alice ? Alors du coup, Alice, qui es-tu ?
Moi, je suis passionnée par l'entrepreneuriat. En fait, et je me rends compte avec les années que ça s'affine, ça, justement, c'est j'ai toujours voulu monter ma boîte. Au démarrage, quand j'avais 18 ans, je me revois avec des copains vouloir trouver une idée. Et en fait, j'ai bien compris plus tard que c'était l'idée qui te trouvait et pas l'inverse. Et du coup, j'ai créé effectivement plusieurs entreprises, dont certaines que j'ai fermées, enfin, dont une que j'ai fermée. Et puis, entre-temps, j'ai bossé à la fois dans la communication et dans le commercial. Et depuis 4 ans, j'ai réouvert deux entreprises. Et pour l'une qui s'appelle Moi Commercial Jamais, j'accompagne les chefs d'entreprise à fouiller un peu leur trip pour qu'ils puissent mettre leur personnalité et leur conviction devant pour qu'ils aient plus à vendre. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus chiant que les gens qui ont envie de convaincre. Voilà, c'est chiant. Et deuxièmement, j'ai créé Pour la beauté du geste où je suis officiante de cérémonie parce que je trouve que mettre des mots sur des moments forts d'une vie, ça t'aide énormément. Et donc, finalement, en fait, le lien de tout ça, c'est juste que moi, j'ai une paire de lunettes assez balèze. Je ne sais pas pourquoi, j'ai découvert ça au fur et à mesure. Mon truc à moi, c'est trouver ta différence à toi.
Alors, du coup, comment tu es devenue entrepreneur, toi, en fait, au final ?
Alors déjà, comment je suis devenue entrepreneur ? Super bonne question. Je suis devenue entrepreneur à la naissance de ma première fille parce que je bossais dans une petite boîte où on était deux, où en fait, ça faisait 3 ans, et j'y étais rentrée en me disant, j'ai envie d'être entrepreneur, mais j'aimerais bien, en fait, pas foutre mon compte en banque sur la table et comprendre comment ça marche. Donc, c'est pour ça que j'avais accepté ce challenge de cette boîte, mais qui s'appelle Baïja, qui existe toujours d'ailleurs, dédicace Fabrice. Je t'agrée pour qu'il fasse du like à ton merde sur le podcast. Et puis, quand je suis partie pour donner naissance à ma fille, je me suis dit, mais en fait, il faut que j'arrête de bosser autant. Si je dois bosser autant, il faut que ce soit pour ma gueule. Et du coup, je me suis dit, c'est le moment. Et j'ai créé ma première boîte dans les fleurs comestibles pour tout ce qui était resto étoilé et hôtel de luxe, juste après ça.
Il y avait un rapport avec ton parcours d'avant, ou rien à voir, non? C'était comme ça?
Alors, c'est très particulier, c'est qu'il y a vachement de rapports, mais il est subtil. parce que je travaillais dans tout ce qui était juste avant spa, décoration sur mesure qu'on apportait de Syrie et de Jordanie pour des hôtels. Quand moi je me suis arrêtée, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc dans le bien-être, je connais ça. Et de fil en aiguille, en fait, j'adore le sourcing et je suis tombée sur des fleurs. Alors, non pas des fleurs fraîches comme les maraîchers, parce que ça demande une grosse logistique, mais par exemple des fleurs qui s'ouvraient, d'hibiscus qui s'ouvraient dans le champagne, des fleurs de thé, etc. Et en fait, c'était il y a 15 ans et je suis arrivée vraiment. Donc, il y avait un truc à ce moment-là qui était en train d'éclore sur les fleurs ou sur la gastronomie un peu waouh, un peu spectacle. Et moi, c'est ce que je proposais. Et du coup, j'ai sourcé plusieurs. En fait, j'ai créé et sourcé plusieurs choses dans ce domaine-là. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait vraiment de la demande. Et de fil en aiguille, bah, j'ai fait des salons comme le Syrah, le Syrest. J'ai vu qu'il y avait de la demande. J'ai vu que ça collait bien. J'avais mes clients. Et en fait, dans tout ce qui est gastro, bah, les gens, et je parle de gastronomie, je vais
Oui,
peut-être
on
dire
avait
les mots,
compris,
hein,
bien
évidemment, parce que
entendu.
la saison, voilà. Ben, en gros, c'est un peu la course à l'échalote. Les chefs, ils ont besoin d'avoir le truc un peu nouveau en premier. Et donc, du coup, c'était super frais, super créatif tout le temps. Et ils cherchaient quelqu'un pour, enfin, voilà, qui sourçait aussi pour eux. Donc voilà. Et ça a très bien fonctionné. Je l'ai eu 3 ans. Ça s'appelait Chez Prune. Et je l'ai fermé parce que je m'étais fait une promesse un peu à la con à l'époque. Je me rends compte, je l'ai fermée parce que je m'étais dit, ouais, si ça impacte trop ma vie perso, je la fermerai. Et c'est ce qui s'est passé parce qu'au bout de 3 ans, j'ai voulu acheter une baraque. Et toutes les banques, même si j'étais en positif, etc., les banques m'ont dit, ah, ma pauvre dame, vous êtes entrepreneuse? Ah ben non, on ne vous prête pas. Ah
Ah
ben
ben non, pas vous.
non, évidemment, pas vous. Ah, vous faites du blé, je m'en fiche, vous êtes entrepreneur. Et du coup, ça m'a tellement dégoûtée, alors qu'en fait, bah, moi, je créais de la valeur, je payais mes taxes, j'avais envie d'embaucher, etc., que, en fait, ça m'entravait dans mes projets perso de déménagement que, bon, après, je suis un petit peu comme ça, j'ai un peu changé, mais en 15 jours, j'ai fermé ma boîte, je l'ai revendue, je suis rentrée pile dans mes frais, mais j'ai dit, bah, salut les connards, et ben, je vais reprendre un CDI et je vais bien vous
Bon.
bip, 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 la gueule pour avoir un super prêt. Et effectivement, 3 mois après, j'avais ma baraque avec des super conditions, mais je me suis dit, c'est quand même dingue, et ça m'a un peu dégoûtée. Donc, ça m'a calmée, j'ai dit, plus jamais je serai entrepreneur.
Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après?
Du coup, j'ai déménagé en province, j'ai eu un CDI, super. Du coup, je croyais que j'avais retrouvé ma voie, c'était trop cool. Moi, j'ai toujours été dans le commercial aussi, donc c'est un petit peu comme être patron de son secteur, donc j'ai toujours eu de la liberté dans mes boulots. Mais un divorce plus tard, j'ai aussi eu le décès de ma seconde petite fille qui a fait que, c'est important pour moi, notamment sur la partie officiante cérémonie. Bah tout ça, c'est des trucs en fait qui te secouent. Et pour sortir un petit peu de ça, t'as pas d'autre choix que de revenir à qui tu es. C'est juste une question de survie. Et qui je suis, et ben, du coup, j'ai changé de taf encore, j'ai changé d'entreprise, j'ai déménagé. Et en fait, ça commençait vraiment à me gratter parce que j'avais. Voilà, en fait, j'adore mon métier de relation avec les gens. Ça se passait toujours bien, mais j'étais pas d'accord avec. La façon dont les patrons ils géraient la boîte. Vivre l'autre, et je suis sûre qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, c'est-à-dire que c'est pas un problème vraiment d'autorité, c'est un problème de. Putain, je trouve que vous gâchez du pognon, vous n'allez pas dans le bon sens pour votre boîte, vous branlez la nouille, et ça me saoulait en fait, et j'étais plus en accord là-dessus. Donc, quête de sens, comme beaucoup. J'ai 43 ans bientôt, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se retrouver là-dedans. Et c'était soit je m'éteignais et j'essayais de ressembler. Bah, aux gens qu'on a, enfin, à la façon, enfin, à la personne qu'on attendait de moi, pardon. Donc, pas être trop grossière, pas parler trop fort, faire mon chiffre, mais fermer ma gueule. Et en fait, bah voilà, il y a un moment donné, c'était plus possible. Et j'ai dit stop. Et j'ai voulu retrouver un boulot qui me correspondait. Et je me revois en train de scroller les annonces. Avec du boulot dans mon métier, il y en a à gaver. Et en fait, il n'y avait rien qui faisait tilt. Et je me suis dit, mais en fait, je ne sais même plus quoi, quand, comment. Et je me suis fait accompagner par un coaching. Et du coup, ça m'a remis les idées en face des trous. Et à l'issue de ce coaching, ça a duré 8 mois, bah, j'ai créé mes deux boîtes.
Et après, c'était parti, mon kiki.
En fait, je ne sais pas pourquoi, enfin, je sais pas pourquoi, mais si, parce que j'avais mis, avec ce coaching, j'avais mis sur la table qui j'étais, qu'est-ce que je voulais plus jamais, qu'est-ce que je voulais absolument. Et voilà, j'étais revenue à mes, ouais, comme un
Les
rêve d'enfant,
fondamentaux,
mais
quoi.
ouais, les fondamentaux. Mais tu vois, j'avais mis, moi, j'ai envie d'avoir un sens dans la vie des gens. J'ai envie, j'adore parler au micro. J'ai mis des trucs trop chelous comme ça. Et en fait, il y a eu un moment donné, je me souviens, c'était le 11 mai, et je me suis dit, mais putain, mais je vais être officiante de cérémonie. Jamais ça m'avait effleuré l'esprit. Enfin, je sais pas, tu vois. Et en 15 jours, j'avais créé mon site web. Et 2 mois et demi plus tard, je célébrais ma première cérémonie. C'était un truc de ouf. Quand c'est ton chemin, t'as tout qui s'ouvre. Et par contre, enfin, ça, c'était le premier effet qui se coule. Et je me suis dit, mais je ne me voyais pas faire que ça. Même pas pour une question de, est-ce que tu peux en vivre en étant officiant? C'était, moi, j'aime trop mon métier de commercial. Et dans ma bouche à moi, c'est pas un gros voleur qui ment, un commercial, c'est quelqu'un qui aime les gens et qui est très curieux des gens. Et ça, j'ai toujours accompagné des chefs d'entreprise en consulting en plus de mes boulots, et je voulais pas le perdre. Et du coup, je me suis dit, mais avec qui j'ai vraiment envie de bosser? Ben avec les gens qui détestent le commercial, pour leur montrer en fait à quel point c'est chouette d'être curieux des gens. Encore faut-il savoir pourquoi on le fait. Enfin voilà, en gros, il y a beaucoup de questions intimes à se poser avant d'aller à la rencontre des gens. Et je me suis dit, ben, je vais bosser avec les gens qui détestent ça. Et c'est pour ça que j'ai appelé ma boîte, moi, commercial, jamais. C'est des trucs que j'entendais tout le temps. Quand je dis, tu fais quoi, Alice? Je suis commercial. Ah, putain, comment tu peux faire ce métier? Et du coup, j'ai repris ça.
Et donc maintenant, ça va.
Ouais, ça va carrément. Moi, je vis ma meilleure vie. C'est un peu le problème. C'est-à-dire que j'ai tellement débloqué de trucs que, effectivement, aujourd'hui, j'ai une très grande part d'intuition et de confiance en moi là-dessus. Si tu as un petit peu les papillons dans le ventre, c'est que c'est ton chemin. Et du coup, si tu le fais avec cœur et en le faisant bien, évidemment, c'est pas en faisant la moitié des choses. Il faut être pro aussi, bien
Ah
sûr.
bah oui, bien sûr.
Ben en fait, ça va fonctionner. Et ouais, et maintenant, je me laisse en fait un peu guider par ça. Et c'est juste ouf, parce que les rencontres, elles se font comme ça. On attire aussi les personnes qui nous ressemblent. Et du coup, j'aurais jamais cru être entourée d'autant de personnes à moitié barjot et à moitié géniales et au grand cœur. Et parce que aussi, j'ai fait de la place dans ma vie pour ça.
Retenez bien ça. Phrase clé du podcast numéro 2. J'ai pas dit la numéro 1, mais vous l'avez déjà trouvée. C'est la numéro 2.
Je suis d'accord avec ton choix.
Merci. Merci Alice. C'est super sympa. Et du coup, comme bah voilà, t'écoutes tes petits papillons, ton intuition, tu te laisses guider par. Voilà. Et ben au final, tu t'es dit, tiens, je vais faire un film.
Bah, c'est exactement ça.
T'as vu, super rebond, hein, on ne l'attendait pas. Hein.
Ouais, je me suis dit comment il va
Comment
le
il va
faire, mais il est
l'amener?
trop fort.
Ah
Putain,
bah
c'est pétillé, les mecs. Attends.
attention, séquence autopromo.
Putain, faut qu'on invente un jingle autopromo. Ouais, en fait, cet été, j'ai Véro, qui est une de mes clientes et qui est devenue pote, qui m'envoie un petit teaser d'un gars qui accompagne une chef d'entreprise et qui est passionné de surf, et il a fait une petite vidéo là-dessus, mais de 2-3 minutes de promo. Et il me dit, ah, mais ça serait trop cool qu'on fasse ça pour les poils à gratteurs. Ça, c'est un gros délire que je fais avec mes clients, que j'accompagne. On s'appelle les... Enfin, voilà, c'est la famille à gratter. Bon, c'est un gros délire. Vous n'allez pas comprendre, mais on s'en fout.
Alors, je vais quand
Et...
même donner du sens à ça parce qu'il ne faut quand même
Ouais,
pas trop qu'on
peut-être.
perde les gens un minimum.
C'est
Donc,
vrai.
en gros, poil à gratter, les gens, c'est, si vous voulez, le nom d'une formation, si je ne me trompe pas. Et tu me dis
D'une
si j'ai raison.
déformation.
D'une déformation professionnelle proposée par Alice, justement, pour que les gens qui ne sont pas du tout à l'aise avec cette notion de commercial, avec cette notion d'alignement dans l'entrepreneuriat, entre bah, il faut être aligné entre ce qu'on dit, ce qu'on fait, pour que ça ait du sens pour nous et du coup qu'on soit efficient et efficace, et ben du coup ben, comme elle va chatouiller les gens à l'intérieur des tripounettes, eh bien ça gratte, d'où la formation poil à gratter. Et vous l'avez compris, Alice étant une personne assez singulière, mais je pense que vous qui nous écoutez, vous vous retrouverez peut-être d'une certaine façon dans ce personnage atypique et attachant. Eh bien cette formation, elle a dit bah pas, c'est pas une formation, c'est une déformation. C'est
Putain, mais
clair?
merci, gros pitch. On ressort le jingle autopromo, s'il te plaît. Oui, il y a un peu de cuivre dans ce jingle, je vois bien.
Voilà, c'est ça. Donc du coup, le film, on disait.
Et oui, et en fait, Véro me dit, mais ce serait trop cool qu'on fasse ça pour nous, quoi. Et en fait, ça a fait son idée, son petit bonhomme de chemin. Et je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien de faire de l'autopromo, on s'en fout, on n'a pas besoin de ça. Par contre, moi, je vois les gens que j'accompagne. Et en fait, je les accompagne sur un mois et après, on reste en lien et ça qui est fort. Et je vois physiquement qu'ils changent à partir du moment où ils débloquent des choses et où ils reviennent à mettre leur personnalité, à assumer qui ils sont. Ils osent être pas comme la personne qu'on attend qu'ils soient. C'est assez subtil, finalement. Et je les vois qui s'épanouissent, qui putain, mais ils se donnent le droit et l'autorisation de mettre leur personnalité en avant. En disant, ben, si j'aime pas les gens, ou si j'aime pas les gens comme si, eh ben, je vais le dire de telle manière que ça soit compréhensible. Donc, ça clive un peu. Mais du coup, leurs clients, en fait, se retrouvent en eux. Et du coup, ça marche beaucoup plus vite dans leur business. Et j'avais envie de montrer, finalement, cette partie émotionnelle de l'entrepreneur qu'on ne voit pas. En fait, c'est toute une association d'idées. Et je me suis dit, mais d'en faire un film, ça serait ouf. Parce que, en fait, j'ai jamais fait de film de ma vie. Et j'adore faire des trucs que j'ai jamais fait de ma vie. Donc, je me dis, oh, bah, pourquoi pas, tiens, oh, un nouveau truc à faire, trop bien.
Un truc simple, un film.
Ouais, surtout que je ne sais pas du tout comment ça fait, comment ça fonctionne, mais je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Et je pars toujours du principe, je ne suis pas plus con qu'un autre. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Et donc, du coup, comment montrer l'invisible? Parce que on est à la fois arrosé d'infos sur ton statut juridique, je sais pas, ton business plan, des choses pratico-pratiques quand tu as envie de te lancer. Et à la fois, tu peux demander à plein d'entrepreneurs, ils ont plein d'infos, mais en même temps, ils ont l'impression de ne pas avoir d'infos ou avoir trop de questions. Plus ils ont d'infos, plus ils ont des questions et moins ils ont leurs réponses. Et du coup, je me suis dit que si on allait donner la parole à ces chefs d'entreprise qui leur ressemblent, et ben en fait, ces gens qui sont déjà sur leur chemin, ça pourrait faire gagner du temps à ceux qui démarrent ou qui ont envie de se lancer, mais également à ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Parce que enfin, je rencontre des gens qui ont 5, 6, 7, 8, 10 ans, et pour autant, ils se posent toujours ces mêmes questions-là, parce que peut-être qu'ils ne sont pas forcément entourés de la même manière que nous. Ils n'ont pas vu que c'était important d'être entouré, ou ils se disent, bah non, mais en fait, ces questionnements ou ces choses bizarres que j'ai en tête, il n'y a que moi qui les pense et du coup je les dis pas et c'est que moi. Et alors que ça fait tellement de bien de partager, de se dire, oh, je suis pas le seul à penser ça, quoi.
Ah, tu lâches le micro comme ça, toi?
Non, mais en fait, je me suis dit, ça faisait comme un monologue, je vais couper et puis après, sinon, je peux faire la suite.
La suite.
Suite. Et alors, du coup, je me suis dit, ok, un film, c'est nickel. Qui je connais, il faut des images. J'ai réfléchi, je fais, oh putain, mais Lisa! Lisa, qui est une poêle à gratteuse, du coup, qui est passée là-dessus, enfin voilà, dans cette déformation, et qui est quelqu'un qui a de l'émotionnel de fou, en fait, qui se connecte aux gens. Et je me suis dit, mais il y a que elle qui pourra, en fait, suivre et mettre en image. Je l'appelle, je lui parle du projet complètement dingo, et je lui demande un devis. Et elle me dit, Alice, je vais pas te faire de devis. Moi, j'ai juste envie d'en être, ça me parle trop. Moi, je veux le faire avec toi. Donc, en gros, si tu es OK, eh ben, on y va ensemble sur le projet, on le co-réalise, on le co-écrit, on le co-monte ensemble. Et en fait, l'aventure est partie en septembre comme ça. Et alors, c'est très drôle parce que moi, je connais rien du tout dans cette industrie du documentaire. Elle, c'est vraiment son métier. Elle est agente de production audiovisuelle et elle fait des documentaires à vocation de communication pour les entreprises.
Okay.
Et toutes les entreprises qui ont du cœur, c'est vraiment voilà, c'est pas du commercial,
Ah oui, mais
c'est
justement, là, attends, non, 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 tu ne peux pas me le
trop.
faire. Non. C'est ça, en fait, regarde, on ne peut pas dire que ce n'est pas du commercial.
Alors, je précise ce que je viens de dire, effectivement, elle a décidé de ne travailler qu'avec les clients qui lui ressemblent et qui la font vibrer. Donc, elle n'a pas cette communication, par exemple, je vais pas faire un documentaire sur comment est fabriqué le shampoing. X, mais par contre, elle va préférer aller sur tiens, j'aimerais suivre les équipes de la Croix-Rouge. Donc, parce qu'il y a une dimension humaine derrière. Mais, à contrario, là, je sais qu'elle travaille sur, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais elle va justement rencontrer des gens qui fabriquent des yaourts, des produits spécifiques, mais parce qu'ils font revivre en fait l'industrie dans les campagnes, par exemple. Donc il y a une dimension en fait sociale et humaine derrière ces projets et ces clients.
Ok.
C'est plus clair ou pas?
Ah, très bien, parfait.
Après, voilà, effectivement, de toute façon, toute action de communication, peu importe, mais même du podcast au mail, au film, c'est du commercial. C'est-à-dire que le commercial, comme on dit, enfin, si on l'entend sur entrer en relation avec des gens. Et si ça te parle et ça t'est utile, eh ben, c'est génial.
Voilà, c'est bien. Ah.
Ça va beaucoup mieux.
On l'a passé. Et donc là, aujourd'hui, on est en janvier.
Ouais.
T'en es où? Enfin, vous en êtes où de ce projet? Spielberg, Cameron, peut-être un Avatar 3, une collab, un truc, non? Ou pas du tout?
Bah bien sûr, alors là déjà, moi j'aimerais bien être en collab avec Grand Corps Malade, tu vas comprendre pourquoi, c'est mon master favori. Alors, j'en suis où? Arrêtons de déconner. On a écrit un rétro-planning, c'est-à-dire que sans date, on ne fait rien. Donc on s'est dit, comme ça, au doigt mouillé, le 23 mars, ça sera notre sortie officielle. Et on a tout décortiqué, donc il nous faut 2 mois de montage. Donc du coup, il faut qu'on ait fini les images à mi-décembre. On est le 16 décembre, on a fini toutes les images du film. Et du coup, on a tout décortiqué en disant qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des scènes de groupe, il nous faut des interviews individuelles, il nous faut un casting. Et en gros, on a fait tout ça. Donc là, en gros, après, là, au 3 janvier, on passe en salle de montage. On a des heures de rush qu'il faut donc découper et monter. Et là, ça y est, notre bébé, ben, on va vraiment on va mettre les mains dans le moteur. Jusqu'à présent, c'était vraiment des intuitions et des envies et des petits bouts. Voilà, mais là, maintenant, ça y est, on attaque le concret. Et du coup, pour faire patienter notre public aimé. Bon, il ne sait pas encore que c'est notre public, mais voilà.
Oui, t'inquiète pas, il va se trouver, à mon avis.
Il va se trouver.
Oh, il va se
exactement.
Trouver. Oh oui.
Eh bien, on a voulu, en fait, bah, faire comme les productions hollywoodiennes, beaucoup moins loin. Et on a fait des teasers. Donc, on a fait 3 teasers. On va en sortir un autre aussi en janvier pour expliquer ben, le concept, le casting, etc. Et puis surtout, en fait, marquer notre univers qui est... on le fait, on a juste envie de se faire plaisir de fou. Et... On fait le film qu'on aurait aimé voir avant de démarrer. Ça, c'est vraiment ce qui nous tient et ce qu'on a dans les tripes. Et on veut qu'il soit concret. On veut que les gens, en fait, à la fin... Enfin, comment te dire? Je l'écris... On l'écrit comme moi, j'écris une cérémonie. C'est-à-dire qu'il y aura, de l'émotion. Ça, on en veut. On veut que ça nous mette les poils sur les bras. On veut se dire, waouh, ça nous a chahuté. Waouh, on s'y est reconnu. Waouh, en fait... Ouais, peut-être qu'on n'a même pas envie de créer notre boîte, ça nous fait hyper peur, mais c'est OK, merci de nous avoir dit. Ou alors c'est oh, putain, on a trop envie d'être à leur place. C'est ouf parce que, ouais, c'est sans phare, mais voilà, c'est notre vie. Alors c'est clivant et on a choisi, effectivement, ça va être les gens qu'on connaît et le fait qu'on les connaisse, nos chefs d'entreprise, enfin, c'est une petite tribu qu'on a suivie, ça leur a permis de se livrer vachement, en fait, tout de suite parce qu'on va droit au but. Maintenant, effectivement, c'est des gens. Ces gens qu'on a choisis, ce ne sont ni des gens qui ont levé des fonds, embauché 20 personnes en 3 ans, enfin en 1 an même, ou enfin voilà, on a voulu sortir de ces clichés qu'on voit beaucoup sur l'entrepreneuriat aujourd'hui, qui existent, c'est enfin voilà, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens comme nous, c'est-à-dire qu'on est soit tout seul, soit on a une petite poignée de salariés, et on vit très bien, on est hyper content, on n'a pas forcément envie de lever des fonds, on n'a pas forcément envie de faire 10 millions de chiffres d'affaires, et ce n'est pas notre but, mais par contre, on existe vraiment, et on fonctionne, et on est hyper heureux, et on avait envie de montrer ces entrepreneurs-là, en tous les cas pour la saison 1.
Ah, parce que ça serait un film en plusieurs épisodes, comme Le Seigneur des Anneaux, en quelque sorte.
Mais en fait, oui, ça fait 2 mois qu'on se dit, on a vu des trop beaux profils qu'on a envie, voilà, des gens justement qu'on fait des levées de fonds, mais qui regrettent tellement parce qu'ils se sont fait déposséder de leur boîte. On a vu des mecs qui ont embauché, qui sont hyper heureux, qui sont à 50. Enfin, on a plein de typologies d'entrepreneurs différents qu'on aimerait montrer, mais il fallait faire un parti pris pour la première. Ah ben non, voilà, on est quasiment sûr qu'on en va faire une deuxième. Mais parce qu'on a envie, en fait. Voilà, juste on a envie d'aller voir. Mais pour ce premier épisode, on avait envie de nous montrer, nous, en fait, notre vie à Lisa et à moi, au travers aussi bah, de nos potes qui ont la même vie que nous et les mêmes questionnements.
Vous le financez comment?
Alors, on le finance comment? Par 2 billets. On a décidé de le...
Deux billets. 2 billets, 2 fois 10 balles.
2 fois 10 balles.
Pas voilà. Cher le film.
Ah, voilà. Bah, pas cher, ma fille.
Voilà.
Mais par contre, après, on fait la quête.
Voilà, vous avez vu, c'est de l'humour qui est quand même un petit peu approximatif. Je ne suis pas sûr que dans les autres épisodes, on sera sur ce type d'humour.
Non, tu peux te permettre avec moi, mais les autres montrent le niveau, je te le dis tout de suite.
D'accord.
Effectivement. Oui, oui. Moi, je suis très bon public, donc ça me va bien, ça me fait rire. Alors, donc, nous allons le financer de 2 façons et plus 6 affinités. Tu vois, voilà comment je reformule. Mm-hmm. La première, c'est que si on attendait du fric, on ferait rien. Enfin voilà, je veux dire, à un moment donné, quand ça s'est posé la question combien que ça coûte, bah, on a fait un petit budget approximatif, c'était entre, ouais, c'était autour de 15 000 balles. Moi, les 15 000 balles, je ne les ai pas, hein, pas pour ça en tous les cas. Et quand on a mis nos compétences sur la table, entre Lisa et moi, on s'est dit, ah, mais en fait, moi qui suis dans la com, c'est cool, et Lisa qui est dans la prod, c'est cool. Donc on s'est dit, allez, allons-y, et par contre, on l'autofinance, c'est-à-dire que bah, c'est sur notre temps de travail, c'est des clients qu'on n'a pas, voilà, mais ça nous tient tellement au trip qu'on s'est dit, on se lance. Par contre, derrière, on va demander un petit coup de main pour aller plus loin, justement, pour qu'il soit diffusé de manière plus large. Donc, en fait, il faut des choses, enfin, il faut du coup embaucher des gens dont c'est le métier. Tu vois, il y a des talonnages, mixage, son, etc. Donc, tout ça, ça va arriver là parce qu'on va demander à notre communauté et celle qui va se créer, on l'espère, autour, de nous donner un petit coup de main via une campagne de crowdfunding sur
Le
Ulule.
slash financement participatif en français.
Voilà. Financement participatif, exactement. À mouler le pognon, quoi. Hein. Faites pas chier aussi.
Le message est passé, messieurs, dames. Allez-y. Le lien
Et
est dans la description du podcast.
voilà. Et du coup, voilà, il va se. Enfin, de janvier à février, donc juste les 2 mois avant la sortie, on va demander aux gens qui croient en ce projet et qui aimeraient le voir de manière plus large de nous filer un petit coup de main pour la partie technique là-dessus et finaliser et pouvoir le diffuser en fait vraiment en salle. Nous, c'est. Parce que tant qu'à y être maintenant, autant voir grand, merde.
Carrément. Concrètement, juste une question comme ça, si tu avais un truc, mais un truc à transmettre aux gens qui écoutent, sachant que parmi les gens qui écoutent, tu as les gens qui sont déjà entrepreneurs, qui ont une boîte qui tourne, qui sont à différents niveaux, à différents stades, à différents trucs, tu vois. Il y a des gens qui peut-être s'intéressent à l'entrepreneuriat, entre guillemets, etc. Tu as aussi des gens qui ne sont pas, entre guillemets, qui sont dans l'entrepreneuriat de leur vie et qui n'ont pas forcément le statut d'entrepreneur au sens entreprise, tu vois. S'il y avait un truc, tu vois, que tu pouvais refiler comme ça, gratos, mais le truc qui a du sens pour toi, à ces gens. Tu avais un mot, un truc que tu veux transmettre, c'est quoi? Paf,
Oui, le
deux
truc
points.
principal, c'est être bien entouré. Et être bien entouré, ça n'est pas forcément uniquement par sa famille, son mari, ses enfants, ses parents. Voilà, des fois, en fait, ils nous soutiennent, mais finalement, quand c'est dans les faits, ça les dépasse un peu. Des fois, en fait, ils ne nous soutiennent pas, ou alors ils ne comprennent pas ce qu'on fait. On n'a pas forcément envie de leur parler, ou on n'écoute pas forcément leurs conseils parce qu'ils ne sont pas vraiment dedans. Donc, c'est d'aller chercher des gens qui nous ressemblent, de multiplier en fait les rencontres et de faire feu de tout bois. S'il y a quelqu'un qui te dit bah, tiens, ça serait cool qu'on se boive un café, bah vas-y, fais-le. Bois ce café-là. En fait, tu sais pas où ça va t'emmener et ne vois pas en mode ah, mais non, mais ça peut pas être un client. En fait, on s'en fout des clients, ils vont arriver différemment. Par contre, multiplie les rencontres. Et par contre, si tu le sens pas, si cette personne, tu dis ah, bah tiens, c'était sympa, mais voilà, ben bah, laisse. En fait, fais-toi ton microcosme et pas uniquement dans ton cœur de métier. Parce que bien souvent, c'est aussi ça. C'est, ah bah, tiens, allez, je suis dans les pompes funèbres, je vais faire que des gens autour qui sont dans le funéraire. Mais en fait, pas du tout. Va voir le mec qui a une boulangerie, va voir l'expert comptable, va voir. En fait, juste fais-toi ton microcosme de gens à ton image. Et quand tu auras un coup de moins bien, bah, t'appelles, tu vas boire un café, tu vas manger avec eux. Ou si c'est bof, si tu as des questions, bah, tu vas pouvoir parler de ta boîte avec eux et tu verras qu'en fait les meilleurs conseils et des fois ils te dégonflent les angoisses en parlant aussi d'eux et ça c'est le truc qui revient à partir du moment où tu es entouré et pas tout seul. Putain, mais tu vas tellement plus vite dans ta boîte et ça va tellement mieux.
Merci. Deuxième question. S'il y avait n'importe quoi, hein, ressources, livres, bouquins, documentaires, bref, un truc, ton truc qu'est ton truc de chevet, soit ton bouquin de chevet, soit ton film de chevet, lié à l'entrepreneuriat ou pas, limite tu pourrais me dire, bah moi c'est Jurassic Park parce qu'effectivement Spielberg, voilà.
Attends, je vais te le chercher.
C'est quoi?
Oui, alors j'abandonne le podcast comme ça. C'est peut-être pas parce que j'étais dans ma bibliothèque.
Il y a une musique d'attente pendant que t'es parti.
C'est cool, impeccable. Allez, le truc qui me vient et que j'adore et que je sors très souvent, justement, notamment au démarrage de des formations, c'est ça. C'est le dictionnaire optimiste. Donc, de Benjamin Isidore Juvenetton. Tiens, le verbe foirer, avoir la foi et se planter. Moi, ça me fait rire. Ben voilà, j'ai un humour un peu particulier.
T'as pas un humour. Tu sais, ça me fait penser à. Tu vois Muriel Robin?
Oui?
Bon, tu vois le sketch, le dictionnaire justement de Muriel Robin?
Ah, peut-être oui.
Bon, il y a ce fameux mot aspirine. Épouse d'un aspirant de marine,
oui.
Rend à la mode un caractère singulier, deux points, un cachet d'aspirine.
Ben voilà, ça peut le genre.
Ok, donc le dictionnaire de l'optimiste, c'est ça ?
Dictionnaire optimiste.
C'est super, super, super. Je te laisse le mot de la fin.
J'ai profité de cette conclusion pour donner un deuxième truc à tout le monde. C'est souvent, quand ça patine un peu dans sa boîte, c'est que même si on a fait tout bien, tout, on a son site web, on a machin, c'est que ça vient de nous. Et il ne faut pas hésiter à se faire accompagner toujours, même si ça fait 5, 10 ans, 15 ans d'entrepreneuriat. Tout part de nous. Et donc, des fois, c'est des tout petits blocages. Des fois, c'est un petit coup de coaching, un petit coup de ce que vous voulez. Et ben, en fait, ça va beaucoup plus vite. Ça débouche les tuyaux. Et la phrase de la fin, c'est ma phrase préférée que je dis vraiment tout le temps. C'est que l'entrepreneuriat, c'est une psychothérapie, mais qui n'arrête jamais. Et c'est ça qui est génial.
Merci Alice, c'était super. J'ai passé un très très bon moment. J'espère que vous qui nous écoutez, vous avez passé également un bon moment. Comme vous pouvez le voir, alors on est sur l'épisode numéro 1 de ce podcast. Attendez-vous pour la suite des épisodes à des épisodes différents, variés. On verra bien où ça va nous emmener, mais le sens est là. Et il n'y a pas de petites actions, il n'y a que des actions, et tant que ça a du sens pour vous, c'est hyper hyper important. Bref, à bientôt Alice, merci pour le temps, merci pour tout, et puis les gens, y a la campagne de crowdfunding, de financement participatif, qui est dans la description du podcast et dans les commentaires. Donc voilà, même 5 balles, même 10 balles, même 20 balles, ça donne un élan à un film qui promet de rivaliser avec Indiana Jones et le crâne du cristal, quoique c'est pas mon indie préféré.
Merci Teddy.
À bientôt.
À bientôt.
Prends soin de toi, salut.
Ciao.
Voilà, c'est fini pour cet épisode. Merci au mouvement des entrepreneurs humanistes de rendre ce podcast possible. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.